Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
C'est Julie Gerbet du podcast À Poil et avant d'écouter votre épisode, j'aimerais partager avec vous, mes chers auditeurs, restaurateurs, entrepreneurs, dont l'emploi du temps est millimétré et les finances mises à mal par l'inflation, ma découverte d'une solution assez idéale, je dois dire, en cas de besoin express de cash. Lancée par BPI France, la banque d'investissement française soutenue par l'État, les prêts flash permettent d'emprunter en deux temps trois mouvements, en ligne et sans paperasse superflue, jusqu'à 75 000 euros, avec un déblocage des fonds en 7 jours. Rénovation énergétique, innovation, développement marketing ou renfort de trésorerie, tous les besoins sont bons, alors rendez-vous sur flash.bpifrance.fr. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'À Poil. Je suis Julie Gerbet, la créatrice de ce podcast, et aujourd'hui je reçois la chef, Pauline Séné.
Je pense que je soigne beaucoup les choses, ça me vient depuis que je suis toute petite, parce que j'ai toujours saucé énormément. Ça a toujours été mon rituel à la maison, on a toujours mangé beaucoup de pain. Toujours une ou deux baguettes, on est une famille de cinq, ce moment de saucer, je suis du genre depuis toute petite à me rajouter de la sauce pour saucer, quoi. C'est mon kiff, c'est. Donc du coup, je le retranscris totalement dans ma cuisine. Je trouve que c'est le plus beau travail d'un cuisinier, quoi. Ça prend des heures et à la fois, t'as ce petit élixir à la fin qui change tout un plat.
J'ai d'abord eu un coup de cœur pour la cuisine de Pauline, dégustée mi-janvier chez Fripon, restaurant dont elle est la chef depuis quelques mois. Ses plats très travaillés, précis, aux accords de goût éblouissants et bien à elle, sont d'une gourmandise infinie et valent largement l'ascension tout là-haut. Oui, ça monte, beaucoup. Et puis j'ai découvert une chef qui a le vrai feu sacré en elle et redonne à la tête de ce lieu tout de marbre, de la noblesse et une certaine profondeur au mot « restaurant ». Avec Pauline, nous avons parlé de saucé, d'apéro avec ses voisins et de nappe blanche. Bonne écoute. Bonjour Pauline.
Bonjour Julie.
Nous sommes chez Fripon, le restaurant que tu as ouvert octobre 2021 et un de mes coups de cœur de ces dernières semaines. C'est la première fois que tu es chef d'un restaurant?
Exactement, c'est la première fois que je suis chef, que j'ai un lieu qui me correspond, où je peux m'exprimer totalement. Donc c'est que du plaisir.
Tu t'es fait un peu discrète après Top Chef, pas de projet en grande pompe à la sortie. T'as secondé un ami, le chef Antoine Villard, qui était en résidence au Grand Amour. T'as eu envie de prendre le temps de la réflexion?
Ouais, après Top Chef, ça a été une période un peu compliquée. Enfin, je pense pour tout le monde, mais particulièrement pour moi. J'avais pas de travail. J'avais eu cette proposition de mon ami Antoine Villard, qui s'était fait avant la diffusion de Top Chef, donc j'avais dit oui. Et puis après, tout s'est emballé, mais j'ai eu envie, voilà, d'avoir la proposition qui me correspond. Et vu qu'à la base je voulais ouvrir mon établissement, mais Covid oblige, quoi. Je me suis dit que c'était peut-être pas le moment. Et donc j'ai voulu vraiment, voilà, j'ai fait une résidence à Nîmes aussi après l'hôtel Grand Amour. Ça m'a permis de faire des super rencontres et tout. Et c'est là aussi, pendant cette période entre juin, juillet, août, où j'ai rencontré Romain Battesti et qui m'a parlé du projet Fripon. Et là, je me suis dit, je pense que c'est ce qui me correspond et ça peut être vraiment la dernière étape avant mon ouverture, mon restaurant, quoi.
Tu dis que ça a été compliqué, pourquoi?
Ça a été compliqué parce que j'avais pas de travail, on était confinés. Donc il y avait vraiment une sorte de grand écart entre ce que je vivais et ce qui pouvait se passer à la télé. Donc j'avais plein d'encouragements, plein de messages, c'est super, ta vie doit être géniale, alors que non, je suis dans mon canapé comme vous. Et je faisais des extras à droite à gauche. En fait, j'avais l'impression que je m'étais fait tout un monde de Top Chef en me disant je vais avoir plein de choses, plein de, enfin ça va être le déferlement d'opportunités, de et pas du tout. Et donc du coup, ça m'a mis un petit peu un coup au moral. Je me suis dit ouais, j'ai fait tout ça pour ça. Donc ça a été un peu la désillusion. Et c'est en ça que ça a été difficile un peu de se relever. Donc je pense aussi que j'ai accepté aussi de travailler avec que ça soit Antoine ou même ma résidence à Nîmes, peut-être un peu pas pour me cacher mais pour pas tout de suite prendre le lead sur quelque chose parce que j'avais un peu perdu confiance en moi et voilà, je pense que j'avais peur de tout de suite me lancer parce que ça avait ces quelques mois, enfin voire une année quoi, avait été un peu difficile et je m'étais attendue à plein de choses et qu'au final pas tant de choses s'étaient passées, donc j'avais envie de me donner le temps.
Donc ça a pris le temps de cette réflexion, t'as eu beaucoup de propositions ?
Bah, pas tant que ça au final, ça a été, j'en ai eu, donc je vais pas me plaindre. Enfin, quand je vois certains amis qui n'ont pas fait Top Chef ou quoi, ça reste encore la galère quoi. Enfin, donc oui, j'en ai eu, donc je suis chanceuse, j'ai pu choisir ce que je voulais faire, où aller, avec qui travailler. Mais je pensais que j'allais en avoir plus.
En tout cas, t'as eu la bonne. Enfin, t'as eu une proposition de Paul Perret ou
Non, j'ai pas du tout de proposition de Paul Perret. Non, c'est un peu du. j'apprécie énormément oui. Paul Perret, mais après, ce qu'on peut voir à la télé. Malheureusement, c'est de la télé, quoi. Non, mais bon, malheureusement. Après, j'ai reçu un message de lui quand il était rentré à Shanghai, tout ça. Il m'avait envoyé des encouragements en me disant, on se tient au courant et tout. Après, moi, à ce moment-là, j'avais rien, donc j'allais pas lui dire, on se boit une bière quand tu rentres à Paris, quoi. Mais donc, du coup, j'y ai pas dit ça. Mais voilà. Après, c'est resté à Top Chef ce qui s'est passé. Peut-être qu'un jour je le reverrai. Enfin, on s'est recroisés il y a pas si longtemps que ça, justement pendant un enregistrement du duel des chefs à Top Chef. Et je disais venez quoi, venez, j'ai un restaurant maintenant. Ah bon? Avec plaisir. Pourquoi pas? Bon après tu sais, je suis pas souvent à Paris. Bah après il passe ou il passe pas, mais en tout cas tu lui as donné la carte. Exactement.
En tout cas, donc pour parler de proposition, c'est finalement la bonne proposition aussi ici, parce que comme tu dis, c'est un format qui te permet de faire une ouverture, d'être chef d'un restaurant, même si c'est pas encore ton restaurant, en vue d'un futur.
En fait, ici, Romain, il m'a proposé exactement ce que je recherchais, quoi. C'est-à-dire une ouverture de restaurant, carte blanche, parce qu'avant c'était un petit bistrot. Un petit boui-boui, on va dire. Je ne sais pas exactement ce que c'était, mais bon.
Un bar du coin.
Un bar du coin, exactement. Mais en fait, il y avait tout à faire. Et moi, il m'a vraiment dit, il m'a laissé carte blanche. Je me suis dit, je ne peux pas rêver mieux. J'ai tout à faire. Il me demandait même mon avis sur la déco. Qu'est-ce que tu en penses, si on fait ça ou quoi. Il avait envie que j'ai un endroit qui me ressemble pour que je puisse faire la cuisine qui me ressemble tout simplement et que ça soit un tout, que ça soit pas juste ce qu'il y a dans l'assiette, c'est que vraiment ça soit cohérent avec la salle, l'ambiance, que ce soit les assiettes que j'ai choisies, enfin voilà, c'est super, enfin il a une confiance aveugle en moi, enfin et je pouvais pas rêver mieux.
Oui, d'ailleurs, t'as choisi des assiettes d'une céramiste.
Oui, Sandrine Gibet d'un air de céramique à Nantes. Qui vraiment m'ont touché quoi. Enfin, elles sont hyper délicates, des couleurs un peu pastel. Elles laissent place en fait à la au plat, tout en étant très belles et enfin elles sont discrètes et à la fois très présentes. Enfin, j'adore ce qu'elle fait. Vraiment, ça me touche beaucoup.
Et vous avez entièrement décoré le lieu, refait, vous avez fait des travaux
En fait, moi, quand je suis arrivée, les travaux étaient déjà faits. Enfin, déjà faits. Il y avait tout le marbre qui a été mis partout. Et après, donc moi, j'ai assisté à la pose du bois. Et après, tous les petits éléments de déco, tout simple. En fait, au final, le lieu est déjà très beau en lui-même, quoi. Tous ces miroirs, ces moulures... Enfin, c'est le marbre qui est venu un peu finaliser tout ça.
Et entre cuisine, bah aujourd'hui, entre cuisine du marché et gastronomie, t'as choisi ton camp. J'ai envie de dire où tu aujourd'hui, c'est quand même plus une table bistronomique.
Ouais, en fait, c'est très dur. J'arrive pas trop à définir ma cuisine. C'est, enfin, quand on me dit ouais, tu fais quoi ? Alors oui, comme j'aime bien ce mot, enfin cette expression table d'auteur. Je pense que voilà, j'utilise les produits de saison comme tout le monde. Hein, ça serait quand même bête de dire autre chose. Enfin, pas bête. Enfin, ce serait totalement fou de dire l'inverse, quoi, et de faire l'inverse. Aujourd'hui, je pense qu'on a tous une conscience écologique. On sait tous que, bah, on utilise des produits d'agriculture raisonnée, plutôt locaux. Enfin, voilà, on essaye d'être intelligent dans notre démarche. Et en fait, j'essaye de me faire plaisir. En fait, tout simplement, je crée des recettes que moi j'ai envie de manger. Donc forcément je m'inspire de mon passé bistronomique et gastronomique, et j'ai fait un peu plus de gastro que de bistro, donc peut-être que sur certains plats ça prend le lead, quoi. Ça devient un peu plus une table gastronomique, mais j'essaye le midi par exemple dans ma formule du midi, donc là de rester vraiment en mode bistronomique, quoi, de proposer des plats un peu plus bruts, un peu plus classiques. Je vois en ce moment là je fais une langue de bœuf. Je trouve ça génial, quoi. J'ai pris la recette de la grand-maman de mon sous-chef. Et c'est, enfin, je trouve ça cool de pouvoir me faire plaisir sur des petites Saint-Jacques, l'art de colonnata le soir un peu plus chiadé, et le midi faire une langue de bœuf capre un peu plus brute, quoi.
Oui, c'est vrai que moi je suis venue le midi et c'est vrai, et c'était très cuisine du marché. Et moins gastronomique, mais t'aimes par ailleurs. Enfin, j'ai cru comprendre que t'aimais vraiment la précision de la cuisine étoilée, la perfection, le goût du détail qu'on peut quand même ressentir ouais, dans les assiettes.
Oui, oui. En fait, dans mes assiettes, en fait, j'aime toujours avoir que ce soit un bon condiment, une sauce. Enfin, je pense que ce qui prime dans ma cuisine, c'est la sauce. Je trouve que c'est toujours
T'anticipes mes questions.
Ah, j'anticipe, pardon. C'est pas grave. Mais oui, oui, non, c'est le midi, malgré cette offre que je veux qui reste bistronomique, elle reste quand même dans mon dressage. J'ai un dressage plutôt précis, coloré ou structuré, on va dire. Ça va pas être juste la cuillère de pommes de terre, d'écraser de pommes de terre et ta viande à côté, voilà. Non.
C'est très travaillé, en fait, comme cuisine, moi, je trouve. Il y a énormément de saveurs, de surprises, et en même temps c'est, tu vois, il y a beaucoup de choses, et en même temps je trouve que c'est hyper équilibré, hyper travaillé en termes de à la fois de construction et de saveurs.
Ouais, ouais, bah ça me touche que tu dis ça, parce que c'est exactement ce que je recherche, en fait. C'est j'essaye de faire des assiettes complexes mais à la fois simples dans leur lecture. Et qui est toujours une petite découverte, justement, en termes de saveur, le petit condiment qui vient de pepser, où tu sais pas trop ce que c'est, mais t'es là, ah ouais, en fait, ça change tout le plat, toute la dynamique, là, on comprend pourquoi il y a ça.
Et donc, là, c'était ta première carte, en tant que Pauline. T'as trouvé, enfin, là, aujourd'hui, tu dis que t'as trouvé un peu ton style, en mélangeant tes différentes influences et...
Je pense que c'est difficile à dire. C'est que je t'attends encore. Je veux dire, je suis jeune, et je pense que jusqu'à la fin de ma vie et de ma carrière de cuisinière, je pense qu'on t'attendra toujours. Forcément, on s'inspire de ce qu'on a pu faire avec les chefs auparavant. Après, moi, je vois au Kobea, ma dernière expérience où j'étais chef adjointe. Donc c'était un étoilé. Avec Philippe Bélissant, le chef, on créait vraiment tous les deux la carte. Que ça soit aussi avant au 52 Faubourg Saint-Denis avec Juliette, qui était la chef, on faisait vraiment ensemble la carte. Donc j'avais déjà cette expérience de créer des cartes, mais là ça change tout. De se dire, c'est mon nom, en fait, qui est associé à ce plat. Donc voilà, j'essaye de m'inspirer de ce que j'ai pu faire, mais après j'essaye aussi de m'inspirer de aussi ce que j'aime, tout simplement. Enfin, il y a des choses où je me dis, ah ouais, j'ai envie de le manger comme ça. Bon, bah, peu importe si je l'ai fait autrement ou quoi avant dans d'autres restaurants, ou si dans la technique, ça se fait comme ça. Bah, j'ai envie de le faire comme ça. Je suis un peu mes désirs et mes
ce que tu as envie de manger.
Exactement. Enfin, ouais. Mes pulsions un peu. Exactement.
Et tu soignes beaucoup les sauces aussi. Donc, ce que tu disais, c'est quelque chose qui te vient de tes expériences.
Ben, je pense que je soigne beaucoup les choses. Ça me vient depuis que je suis toute petite parce que j'ai toujours saucé énormément. Ça a toujours été mon rituel à la maison. On a toujours mangé beaucoup de pain. Je sais pas, on avait toujours une ou deux baguettes. On est une famille de cinq. On avait ce moment de saucer. Ça, je suis du genre depuis toute petite à me rajouter de la sauce pour saucer quoi. C'est mon kiff. C'est donc du coup je le retranscris totalement dans ma cuisine. Et puis aussi j'adore faire ça. Enfin par exemple un bon jus de viande. Je trouve qu'il n'y a rien de plus... Je trouve que c'est le plus beau travail d'un cuisinier, quoi. Ça prend des heures, et à la fois, tu as ce petit élixir à la fin qui change tout un plat. Et à côté, tu vas faire une petite sauce chimichurri ou une petite sauce au capre ou un petit condiment avec des dattes, ou voilà. Et là, tout prend sens, et puis tu viens saucer avec du super pain. Là, je vois, nous ici à Fripon, on travaille avec Éléments. Claire qui nous fait un pain en levain avec de la farine de seigle aussi. Enfin, il est formidable. Enfin, tout le monde nous dit à chaque fois, on se fait déglinguer en pain parce que justement, je veux ça, parce que le pain est super bon et parce que je fais des sauces pour que les gens, en fait, se fassent plaisir à saucer. Et voilà, les deux s'associent et je suis trop contente. Moi, je vois ma famille, ma sœur, par exemple, j'ai une sœur jumelle qui est venue manger. Elle me fait, mais quand elle vient très souvent, elle me dit, mais je te revois, je te reconnais tellement dans les assiettes, ce plein de sauce où on se sauce à chaque fois, où on reprend du pain. Et elle fait, c'est tellement toi et c'est tellement un peu nous depuis toujours, quoi. Et ça fait plaisir, ça me touche.
Et donc assez peu de viande, du jus de viande, mais assez peu de viande finalement dans ta cuisine.
Oui, j'essaye
par goût, ouais. Par goût personnel.
Ouais, et aussi un peu par conviction. Je pense que aujourd'hui, on tend à moins manger de viande. Moi-même, j'en mange de moins en moins. Je suis plus poisson et légumes, quoi. Donc. Du coup, j'en mets, bien sûr. Par exemple, à la carte, en ce moment, j'ai du riz de veau. J'adore ça. Parce que je suis une viandarde à la base, hein. Mais voilà, comme je disais, faut être conscient de tout ce qui se passe autour de nous. On tend à moins de manger de viande. Donc, je vais dans cette direction.
Une très belle pièce.
Voilà, je préfère avoir une très belle pièce plutôt qu'avoir plein de morceaux de viande qui n'ont, enfin, je sais, enfin. Et puis aussi, c'est pas forcément quelque chose que je maîtrise. Donc, peut-être qu'aussi, inconsciemment, je me dirige moins vers la viande. Et plus vers le poisson, où j'adore travailler le poisson dans plein de restaurants. J'ai souvent été au poste poisson. Donc, c'est quelque chose que je maîtrise plus. Je mange plus de viande à la base, je préfère travailler le poisson.
T'es à l'aise.
Ouais, je suis plus à l'aise.
Et t'as toujours eu le feu sacré depuis l'enfance?
Ouais, je pense que ça a toujours été là, très très jeune. Ma mère, alors mon père ne cuisine pas du tout, hein. C'est le bon papa à l'ancienne, voilà, qui met ses pieds sous la table. Mais mon papa travaille à Rungis, donc du coup, grâce à ça, j'ai toujours eu accès aux légumes très facilement.
Et au-dessous de la gastronomie aussi.
Oui. Oui, parce que mon père servait pas mal de restaurateur, tout ça. Mais en fait, oui, c'est venu assez jeune, très vite au collège. Je cuisinais très souvent à la maison. En troisième, j'ai fait mon stage dans un restaurant, mon stage d'observation dans un restaurant. Et j'ai dit à mes parents, j'arrête, je fais de la cuisine, quoi.
Oui, dès la seconde.
Ouais, enfin, dès la troisième. Dès la troisième. Et sauf qu'ils m'ont dit, t'es gentil, tu passes ton bac et après on verra, quoi. Donc c'était déjà très présent, quoi.
T'as passé ton bac?
Et alors j'ai passé mon bac parce que j'étais bonne élève, donc du coup j'ai passé mon bac. Et donc, mais je continuais à faire des extras dans un restaurant, mais en salle. Je sais pas pourquoi. Ça me permettait d'être dans un restaurant et j'étais quand même très souvent en cuisine, mais je faisais de la salle. Et
donc t'aimais vraiment ça.
Oui. Ah oui, oui. Moi, je vois à l'école, je pensais qu'à une chose. Je me faisais mes listes. Dès que j'avais du temps, je me faisais des listes de pas de mise en place, mais de recettes de ce que j'allais faire le week-end ou le soir. Donc je passais tout à mon père. Je disais là, bah tu me ramènes ça, ça, ça. Et puis le week-end, je tabassais de la, je cuisinais quoi.
Au lycée.
Ouais, au lycée c'était vraiment, enfin, je cuisinais énormément.
Tu regardais Top Chef, ça existait à l'époque.
Ouais, je regardais Top Chef. Alors attends, parce que c'était il y a 13 ans, donc c'était les toutes premières années. Ouais. Et ouais, moi je regardais Top Chef. C'était.
Tu pensais passer dedans un jour?
Bah écoute, je sais pas. En fait, ça m'a impressionné énormément. Donc,
tu te l'étais pas dit?
Non.
C'était pas un goal.
Non, ouais. C'était pas du tout un objectif de vie. Ouais. Mais j'adorais regarder les premières années. Pour moi, c'était dingue, quoi. Franchement, souvent, tu te dis bon, qu'est-ce que j'aurais fait? J'essayais de me mettre à la place des candidats et tout. C'était un super exercice. Hein. J'aimais beaucoup.
Et donc après le bac, tu...
Alors après le bac, je me suis un peu dégonflée et je sais pas pourquoi, je me sentais pas prête. Donc j'ai fait un an de fac de cinéma parce que je suis fan de cinéma
la fameuse première année. De...
la fameuse première année blanche. Et alors c'était génial. Hein. J'allais au cinéma tout le temps. Enfin voilà quoi. Mais bon. Très vite, je me suis rendu compte que j'allais sur quelque chose qui n'était pas concret. Enfin, je voyais la direction et je me suis dit, wow, là, je vais dans le mur. Enfin, c'est bien beau d'être fan de cinéma, mais tu ne vas pas faire grand-chose. Donc, je me suis inscrite dans toutes les écoles de cuisine et j'ai été prise à Ferrandi. Et là, l'année d'après, alors quand on ressort d'une année de fac à commencer... une école de cuisine.
C'est le grand écart.
Waouh, ça a été très 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 compliqué. Moi je vivais toujours en banlieue chez mes parents. On commençait, il était 6h, 6h30 du matin, donc je me levais, il était 5h.
Après la fac, cinéma.
Franchement, je faisais rien. Enfin, je faisais rien. C'était très très tranquille. Mais donc du coup, quand je suis arrivée à Ferrandi, enfin voilà, déjà t'arrives, c'est pas oui monsieur, c'est oui chef. C'est tout ce côté militaire qui fait mal. Il a été très très dur à assimiler.
T'étais en apprentissage ou en...
Alors
en...
non, du coup j'ai fait un an de remise à niveau.
Mm-hmm. Ah oui.
Où tu passes ton CAP en un an. Mais oui. Du coup, moi, j'étais pas en apprentissage. J'ai fait.
C'était en continu.
En continu, exactement. Et t'as 4 mois et demi de stage, par contre, ouais. Dans un restaurant dans l'année, quoi. Et je regrette pas du tout. C'était parce que on avait un super prof, un super chef qui était chef Mignot, qui a été pour moi un mentor, quoi. Il m'a.
En tout cas, ça t'a convaincu de continuer la cuisine.
Ah, mais totalement. Ouais.
T'étais dans ton élément.
Ouais, les premiers mois, je pense que je pleurais peut-être tous les soirs. Je sais pas pourquoi ça me. Et en fait, un jour, j'ai eu un déclic où je me suis dit mais oui, c'est ça, c'est ça, c'est du coup et vraiment un déclic. C'était oui chef, même mon père ou quoi, je disais toujours oui chef. Hein, c'était devenu une sorte d'automatisme. Mais je sais pas, je me suis sentie à ma place. Tout prenait sens. J'étais là, mais oui. En fait, c'est, j'avais toujours voulu faire ça. Et je prenais un plaisir dingue à apprendre, à faire les prods au restaurant d'application. Puis on avait une super classe. C'était super.
Malgré le fait que ce soit dur, quand même.
Ouais, malgré le fait que, mine de rien, c'est pas des années d'étudiants normales, quoi. Enfin, normaux, quoi. C'est dur, quoi. Je veux dire, t'as des horaires hyper compliqués. Enfin, ouais, ce que je te disais, tu t'arrives, il est 6h30 en cuisine. Le soir, on finissait, il était 19h, quoi. franchement.
Ça t'entraîne ce que ça va être.
Ouais, je pense aussi c'est voilà, il te forme à la suite. Hein. De toute façon, tu vas pas avoir des horaires normaux, donc là-dessus, au moins t'es dans le bain tout de suite, quoi. Mais voilà, c'était pour moi c'était mes plus belles années. Enfin, je regrette pas du tout d'avoir fait ça, quoi.
Et tu te rappelles s'il y avait des femmes chefs, enfin des chefs, je veux dire, il y avait peut-être pas beaucoup de femmes chefs encore à l'époque, et qui est-ce que tu vois, qui est-ce qui t'inspirait?
En fait, à cette époque-là, pour être très honnête, j'avais pas de, je pense que j'avais pas vraiment de culture culinaire. Enfin, c'est pas que j'en avais pas. Oui, j'en avais pas du tout, parce que je suis arrivée un peu totalement vierge de toute connaissance du monde culinaire, quoi. Enfin, oui, je connaissais Bocuse, Robuchon, Pic. Allez, je connaissais Anne-Sophie Pic, mais ça s'arrête là, quoi.
Oui, enfin, c'était plus centré sur la cuisine en elle-même que sur le.
Exactement. J'avais pas du tout cet intérêt pour les chefs, ce qui se passait. Et puis, moi, je viens de banlieue, et même si je suis pas loin de Paris. Ça reste la campagne là où je suis, enfin là où j'ai grandi, et on n'a pas vraiment de restaurant, enfin c'est ça, on reste un peu un no man's land de restaurant, et du coup j'avais pas du tout cette culture. C'est venu vraiment avec l'école, avec les copains d'école aussi, à sortir énormément au restaurant. Enfin, c'est là que je me suis ouverte à tout ça, à découvrir les chefs, à sortir tout simplement.
Et donc, pendant ton parcours, enfin, tu commences en tout cas ton parcours au Laurent?
Ouais, alors j'ai fait mon premier stage au Laurent. C'était c'était sport, quoi. Mais j'en ai un souvenir fabuleux. J'en ai encore j'ai encore des amis aujourd'hui, 12 ans plus tard, de là-bas, parce que ça a été une expérience formidable. J'ai fait ma première année, du coup, de CAP, j'ai été en stage là-bas, donc 4 mois et demi. J'étais là, on était pour 30 gars, on était deux filles, quoi. Donc déjà ça te fout dans le dans l'ambiance, quoi, tu sais un peu la réalité du métier, quoi. Et puis ouais, j'avais 19 ans, enfin
brigade à l'ancienne, enfin
ouais,
en tout cas
de ouf, ouais. Et puis ouais, c'était des gros matchs, enfin en fait j'en ai un souvenir un peu affectif, mais à la fois en y repensant il y a des choses que j'accepterais plus du tout aujourd'hui, je pense, parce que j'étais en apprentissage et que j'acceptais certaines choses. Mais aujourd'hui, en y repensant, je me dis, mais c'est inacceptable, la façon dont ils pouvaient parler, dont ils pouvaient déconner.
Et les mentalités ont changé aussi.
Ah, mais
aussi,
oui, les mentalités ont...
Et heureusement, aujourd'hui.
Ah, heureusement, heureusement, parce que franchement...
Mais c'est vrai que à cette époque-là, on t'apprenait pas à te rebeller non plus, je pense. Enfin...
Ouais, mais totalement, c'était... Alors, ouais, c'était quand même vachement l'homme qui primait, et toi... Enfin, moi, je m'en souviendrai toujours d'une phrase qu'on m'a dit. C'était, de toute façon, les nanas en cuisine, c'est soit tu leur mets la misère, soit tu les baises. Et t'es là, waouh, c'est chaud quand même. Je fais, moi, du coup, non, mais toi, c'est pas pareil, je te respecte. Ah, d'accord. Bon, c'est cool, alors. Ah, donc il y a une troisième catégorie. C'est super, le respect. Et voilà, mais ça, je trouve
c'est
que
tellement.
Mais je trouve que ça résumait totalement tout.
C'était
genre, t'es là. Et enfin, tu vois, c'était du genre, quand il y avait des nanas qui arrivaient en cuisine, des clientes ou quoi, parce que ça paradait un petit peu, tu vois. Et c'était du genre, ils faisaient tous le bruit de loup, quoi.
Oh là là.
Mais tu vois, aujourd'hui, je me dis, il y a un truc qui se passe comme ça, mais ça me rendrait...
C'est au secours. Ouais.
Mais ça me rendrait dingue, quoi. Limite, je mettrais mon tablier à terre et par terre, et genre, ciao, quoi. Mais ouais, il y avait des trucs comme ça, où même je pense que j'en ai oublié la moitié, quoi. Mais heureusement. Alors, je sais pas si c'est bien d'occulter tout ça, tu vois, mais...
Non, mais c'était une autre époque et...
Ouais, mine de rien, en l'espace de 10 ans, tout a... Et heureusement, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a des choses qui restent encore un petit peu. Je pense que malgré tout, ça reste quand même un milieu d'hommes. Faut dire les choses. Souvent, les gens ont dans leur imaginaire, c'est les chefs sont des hommes. Enfin, voilà, ça commence un peu à changer, mais.
Après, quand tu vois aujourd'hui les restaurants et les. Enfin, moi je trouve qu'il y a énormément de femmes et c'est cool, mais c'est vrai que les mentalités elles mettent du temps aussi à évoluer derrière. Ouais.
Mais bien sûr. Non, mais après, moi je suis.
Et d'ailleurs, Top Chef, je sais plus, vous étiez 3 filles l'année dernière. Cette année, pareil.
Cette année, ils sont 2 filles. Enfin, 3 filles. Non, 3 filles aussi.
3 filles sur 15 personnes. Ça reflète pas encore, je trouve, l'évolution de l'univers de la restauration. En tout cas, à Paris, peut-être.
Oui, ouais. Bon. Ouais, je suis d'accord.
Et dans l'Est parisien.
Ouais, non, je suis d'accord. Après, ouais. De ce que disaient tous les producteurs, tout ça, de Top Chef. Il nous disait que les femmes, il y a beaucoup moins de candidatures de femmes. Alors, je pense que moi, la première, j'ai mis du temps à me présenter parce que je pense qu'on se pose plus de questions que les garçons. Ouais. C'est voilà, on pense plus à comment on va passer à l'image, comment ils vont nous représenter. Il y a quand même, c'est plus compliqué. Hein. Moi.
Bah d'ailleurs, tu vois, il y a aussi, je pense qu'il y a beaucoup de chefs de femmes chefs, en tout cas dans plein de restos, de pas des, je vais pas dire des petits restos, mais des restos de quartier pour caricaturer.
Ouais.
En tout cas, versus des restaurants étoilés, par exemple.
Mais bien sûr.
Parce que, comme tu dis, en fait, c'est quelque chose que les femmes s'autorisent peut-être moins.
Ouais,
ou elles sont à la recherche d'autre chose, en tout cas.
Je pense qu'on a tendance à être beaucoup plus discrète. Enfin, je parle pour moi, genre, je fais une généralité à 2 balles, mais en tout cas, pour avoir pas mal parlé avec les journalistes de Top Chef, c'est ce qu'ils m'ont dit. C'est que même souvent, parfois, ils sélectionnent des femmes, mais qui se retirent au dernier moment. Parce que, pas envie de passer à la télé, pas, voilà. Moi, la première, je sais que j'avais été approchée il y a quelques années, j'avais dit non. Parce que j'ai eu des exemples de Top Chef où j'ai vu que en tant que femme, t'es beaucoup plus maltraitée qu'un homme. Enfin, les gens attendent tellement plus de toi, c'est fou. Mais même moi, je l'ai vécu à Top Chef. Tu vois, j'étais dans l'équipe avec Baptiste, et ce qui ressortait, c'était on est en couple. T'as envie de dire, mais franchement, vous avez pas d'autre chose à foutre.
Ouais.
Je me serais appelé Paul avec une bonne moustache, tu vois, bien costaud. On aurait dit c'est des potes. Enfin,
ouais.
Il y aurait pas eu ces questions et ce truc de tout de suite.
Tout de suite, tu t'entends bien.
Tout de suite, tu vois, parfois j'avais des questions un peu genre vous tombez amoureux. Franchement, j'étais là, on peut dépasser ça. On s'entend bien, homme-femme, il y a un moment, on va au-dessus, quoi. Enfin, je pense qu'on... Faut arrêter
Comme tu dis, si t'avais eu une moustache...
Non, mais c'est ça,
t'aurais jamais
on serait passé à autre chose, on aurait parlé de ma cuisine. Mm. Et plutôt que de... tu t'entends bien. Oui, je m'entends bien, super. Tu vois. Non, mais voilà, malgré tout, encore aujourd'hui, on est un peu là-dedans, quoi. On en sort, mais doucement.
Et ça reste difficile, ça a été, après, dans ton parcours, ça a été difficile d'être une femme. Je crois que tu dis qu'il faut vraiment travailler 2 fois plus quasiment qu'un homme pour...
En fait, je pense que ma première expérience au Laurent... Donc j'étais en stage et en fait après j'ai été embauchée en pâtisserie. Donc j'ai travaillé un peu moins d'1 an quoi là-bas avant de reprendre mes études à Ferrandi pour finir mes études. Et ça a été très très formateur parce que j'étais qu'avec des gars. Alors c'est tous devenus mes potes, c'était vraiment super quoi. Mais aujourd'hui je pense que c'est ce qui m'a aidée à pas me faire une carapace, mais être un peu plus forte pour la suite. Et oui, il faut être moins dans l'affect. parce que tout de suite, dans plein de restaurants, où, voilà, où quand tu commences, où, quand j'ai commencé à prendre des responsabilités, à être, bah, être en charge, enfin, d'autres personnes, je l'ai tout de suite vu. Un mec, quand il va être strict ou quoi, voilà, ça va être, ouais, le chef, il est enfin, il est autoritaire, il est strict, quoi. Une nana, tu vas dire, ouais, le chef, elle est chiante. Hein. Et tu vois, c'est ce changement de mot où, où tu t'es là, bah non, je suis stricte. Oui. Tu ne dirais jamais ça d'un homme. Et là-dessus, ouais, je trouve qu'il faut tout de suite, faut mettre plus de barrières qu'un homme. Parce que...
se faire respecter.
Faut se faire, voilà, faut, en tant que femme, bon, on m'a souvent dit, oui, je peux être dure ou quoi. Après, ça n'empêche que... Enfin, comme tout le monde, hein, je pense que j'essaye d'être dans l'humain, j'aime déconner et parler. Mais il faut être un peu plus dur. En tout cas, moi, je l'ai toujours vécu comme ça, quoi.
Pour se faire respecter.
Ouais, pour se faire respecter, je mets une petite distance quand même.
Et donc, Top Chef, qu'est-ce qui t'a décidé finalement à accepter la proposition ? T'avais refusé, donc cette première fois et...
Bah en fait je me suis retrouvée comme tout le monde, hein, confinement à la base je voulais partir travailler à l'étranger parce que j'avais quitté le Kobéa
au Danemark.
Oui voilà, pour travailler je m'étais dit j'irais faire un stage au Noma, c'était mon grand projet, sauf que bon bah je voulais partir en avril
quand ils ont fait des burgers.
Voilà, je serais allée faire des burgers. Mais Covid, je me suis trouvée... Enfin, vraiment, pour le coup, ça a été un timing...
Pourri.
Pourri, de merde. Hein, comme, voilà. Et c'est la première fois de ma vie où je me suis retrouvée sans projet. Où j'étais... je voyais pas quoi faire. Et c'est un peu venu de mes... Enfin, c'est pas un peu, c'est venu de mes voisins. Bon, comme beaucoup de Français, j'ai commencé à faire des apéros avec mes voisins. Et... Et ils regardaient Top Chef. Ils m'ont dit, mais pourquoi tu fais pas Top Chef et tout? Parce que moi, ces dernières années, bah, je pense, parce que je travaillais aussi, je regardais plus Top Chef. Alors que je regardais beaucoup les premières années. Voilà, une question de temps aussi. Et aussi, parce que je trouve que c'est difficile de voir des gens qui font son métier à la télé. J'avais du mal à regarder. Mmh. Et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas? Donc j'ai un peu envoyé ma candidature. Bon, bah, on verra. C'était un peu une blague, quoi. J'ai rigolé avec mes voisins en disant, bah, tiens, c'est bon, j'ai fait ma candidature. Bon, on verra, quoi. Et puis, en fait, de fil en aiguille, je passais les étapes, quoi. Les interviews, tout ça, où tu passes et arrive le concours. Et puis, ça se passe super bien. Genre, j'ai trop kiffé. C'est la première fois que je faisais un concours de cuisine. Et j'ai trouvé ça super, quoi. J'ai l'impression que j'étais dans mon élément. Tout le monde était super sympa. Il y avait une super ambiance. Bon, après, il y avait le côté télé, quoi.
Les sélections.
Voilà, ouais, c'était les sélections. Je sais pas combien on était, mais à peu près, parce que c'est sur plusieurs jours le concours, mais à peu près 200, 300, trucs comme ça.
Ah ouais.
Et ils choisissent les 15.
Ouais, ça fait.
Donc.
Mais enfin, un gros concours.
Ouais, mais tu te rends pas compte. Enfin, en tout cas, puis vu que je faisais ça vraiment, j'avais aucun objectif. Enfin, tu vois, je le faisais un peu en me disant, à chaque fois, je comprenais même pas que j'arrivais à aller à chaque fois à l'étape suivante. Donc là, j'étais là, je me disais, bon, ça le fait. Mais je pensais pas que ça allait le faire. Donc, j'étais hyper désinvolte. Je m'en fichais vraiment, quoi. Je kiffais ce qui se passait parce que j'avais rien d'autre à faire et voilà. Mais j'attendais rien de tout ça. Donc, et puis au final, quand j'ai été sélectionnée, c'était vraiment genre... Ah ouais, mais c'est... Attends, ça implique quand même beaucoup de choses. Donc, t'as beau te dire, ouais, ça implique beaucoup de choses, t'arrives... Enfin, moi, j'aurais jamais imaginé la machine que c'était, quoi. C'est quand même un rouleau compresseur, enfin... C'est énorme.
Mais c'est pas tant le tournage, c'est vraiment la diffusion.
Bah, c'est aussi le tournage, hein, mine de rien. Tu te retrouves, c'est un des plus gros plateaux.
Ouais.
En France, du moins. En Europe, je sais pas, mais c'est un énorme plateau. T'as 150 techniciens autour de toi. t'as un caméraman, un journaliste qui te pose des questions toutes les deux secondes. Pourquoi tu tiens ton couteau comme ça? Enfin, voilà, c'est des conneries, quoi. Ou vraiment, t'apprends un autre métier.
Ouais.
Et ça, du coup, j'avoue que t'as beau essayer de te dire bon, ça va peut-être être comme ça et tout. Franchement, j'avais aucune idée en fait de ce que ça allait être. Mais c'était hyper intéressant. Enfin, je regrette pas du tout de l'avoir fait. Bien sûr, j'aurais aimé aller plus loin. Enfin, moi, je me suis prise au jeu. Je me suis dit, je le fais pour gagner.
Ouais. Bah oui, c'est normal.
Enfin voilà. Ouais.
C'est surtout que vous aviez quand même. Enfin, moi, je trouve qu'il y avait quand même un niveau qui était haut.
Ouais.
Et où à la fin, c'est pas forcément le meilleur qui gagne.
Tu vois,
peut-être les tout premiers qui sont éliminés et encore.
Et encore, franchement.
Et encore, c'est un peu une question de chance presque sur quel thème tu tombes, comment c'est géré.
En fait, comme il disait, c'est les candidats qui vont le plus loin, c'est ceux qui arrivent à le mieux s'adapter. Et là, clairement, c'est ça. Parce quand je vois notre saison, que ça soit Yoé ou Adrien, c'est deux chefs de dingue. Enfin, limite, tu peux inverser et ils auraient pu être les deux finalistes. Donc, oui, c'est vrai que cette année-là, on avait tous à peu près le même niveau. 10 ans d'expérience, tous étaient un peu chef, sous-chef. Il y avait quelques profils jeunes, mais au final, on avait tous le même profil. Donc, on était tous au coude à coude. C'était à qui s'adaptera le mieux, à qui arrivera à comprendre le mieux l'épreuve.
Qu'est-ce qui t'a manqué a posteriori?
Oui, mais c'est ce qui m'a manqué totalement.
Toi,
je pense que, en fait, ce qui m'a.
Le stress aussi?
Le stress. En fait, le truc, c'est que je me suis beaucoup entraînée. Je suis pas partie en vacances.
Tu faisais quoi? Tu t'entraînais comment?
Je sais pas si j'ai le droit d'en parler. Mais... en gros, quand t'es sélectionnée, ils te passent un portfolio de, je sais pas, 30 épreuves où tu dois présenter les recettes et les fiches techniques. Enfin, genre c'est du boulot quoi. Et moi, bonne élève. Vraiment, ils me l'ont dit à Top Chef, on me dit « Pauline, c'est la bonne élève ». Tu m'étonnes, un peu conne surtout. Mais du coup, je ne suis pas du tout partie en vacances. J'ai été dans le restaurant d'amis qui m'ont prêté leur restaurant qui était fermé en août. Et du coup,
t'as bossé, quoi.
J'ai bossé. J'ai bossé mes recettes, j'envoyais. Mais ça a été mon erreur. Parce que en fait, quand j'ai commencé Top Chef... J'avais tellement fait les trucs, même si on ne sait pas les épreuves. Au final, tout ce qu'ils nous ont passé, il y a la moitié qu'on ne va pas faire. Il y a la moitié... Enfin, la plupart, on ne sait pas si on va être en équipe, si on va être tout seul. Il va y avoir un petit truc qui change. Donc, en fait, oui, on se prépare, mais ce n'est pas exactement ça. Et donc, du coup, quand je suis arrivée, j'étais tellement... Quand les épreuves commencent, j'étais tellement en me disant « Oui, mais j'ai fait comme ça ». Que du coup, j'étais stérile en termes d'idées. J'arrivais pas à sortir de ce que j'avais pu faire, de comment je m'étais entraînée. Et ça a été mon... Je m'étais piégée. je m'étais auto-piégée. Parce que, alors que je me suis rendu compte que... Et je le sais d'habitude, quand je fais des plats ou quoi, là où je suis pas du genre à faire des essais. Je fais des essais quand j'ai des doutes ou quoi, mais... Je suis plus forte
assez
sur
sûr.
Les... Voilà.
Assez
en
sûr
fait,
de
normalement, je fais des one shot quoi. Et ouais. Puis, oui, et puis on améliore au fil du temps. Mais là, du coup, j'arrivais pas à faire autrement et donc c'était pas fluide. Et tout était comme ça. Donc, et puis le stress, quoi, mine de rien.
Alors que t'as travaillé dans des brigades étoilées où il y a du stress aussi.
Je pense que
c'est un stress différent.
Ouais, c'est un stress différent. Ouais. Tu vois, t'es quand même regardé par. T'as plein de personnes
ouais, comme
autour
tu
de
dis,
toi.
Des caméras,
ouais,
des gens c'est. Qui parlent, qui te...
Tu dois parler sans cesse.
Ouais.
Ça, mine de rien, je m'étais beaucoup préparée.
Ça, c'est dur, je pense, non?
Ah ouais, ouais.
Qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi tu l'as fait?
Pourquoi t'as taillé la ciboulette comme ça? Bah alors, bah, je la taille parce que comme ça, c'est plus petit et c'est mieux. tu dis des trucs totalement cons, en plus. Mais voilà, mais ça, je m'étais pas... Tu prends pas en compte tout ça dans ta préparation. Donc mine de rien, ouais, ça m'a... Et aussi, j'ai voulu trop en faire à chaque fois. Et ça, Paul Perret, c'est marrant parce que quand on s'est revu il n'y a pas si longtemps que ça, on en a parlé. Il me fait « Ouais, tu voulais trop en faire. » Et je fais « Oui, ça a été mon défaut. » Je pense être bonne techniquement. Et du coup, à chaque fois, je me disais « Ouais, je vais faire ça, ça, ça. » Sauf que bah, je l'ai bien vu. Là où, quand ça passe, c'est quand tu vas à la simplicité, au produit, et juste, bah, il te faut trois éléments. Enfin, il y a un moment où tu peux pas.
C'est dans une zone de confort aussi presque, peut-être, qui ouais. te permet de, ouais, de bien maîtriser les choses. Et...
Ouais, je pense aussi que je sais pas. Mais à chaque fois, je m'en foutais une tonne.
C'est un peu un truc de chef aussi.
Ouais, je sais pas. Je sais pas.
Non, de se mettre la pression encore
je pense,
plus.
Ouais, je pense que je me mettais la pression encore plus, alors que c'est marrant, les épreuves que j'ai le plus, où j'ai pris plus de plaisir, c'était mes dernières chances. Alors que j'avais rien préparé, justement, et là, j'avais l'impression d'être vraiment moi, et de faire un truc où, bah ouais, t'as ça, 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 et puis j'avais pas réfléchi en amont, et en fait, c'est là où je suis la meilleure. Et c'est en ça que je m'en veux. Je me dis, si admettons je refais un Top Chef, ce que je pense pas, mais je m'entraînerai pas comme ça, parce que c'était contre ma nature de cuisinière, en fait, parce que d'habitude je suis pas comme ça. Et après voilà, c'est comme ça, on peut pas refaire ce qui a été fait, mais ouais. Et puis le stress, et puis aussi de voir tous ces candidats, enfin ouais, un super niveau, quoi, franchement. Moi, ils m'impressionnaient tous. Et mine de rien, à chaque fois, je me disais, ah, putain, il a des super idées, ouais, ça. Et ça me rajoutait. Ça me rajoutait un peu. Alors que depuis quelques années, j'étais sûre de mon poste. Enfin, voilà, il y a un moment, tu commences à savoir ta valeur, même si. On peut pas dire que je sois quelqu'un qui ait confiance en soi, parce que c'est pas ce qui me définit, mais en tout cas en cuisine, je commençais à prendre confiance en moi. Mais là, en arrivant à Top Chef, de voir tout, bah voilà, tout ça, toute cette effervescence, ils étaient tous au top. Enfin voilà, et puis moi, j'avais l'impression un peu d'être stérile en termes d'idées. Il y a des choses qui m'ont bloquée, quoi. C'est un peu ça qui a fait que j'ai perdu, quoi. Bon après, c'est jouer sur une bouchée de moule, quand même con, quoi. mais bon, voilà, c'est la vie. C'était une super expérience. J'ai fait, enfin, aujourd'hui, c'est devenu des amis, quoi.
Donc, qu'est-ce que ça t'a apporté?
En fait, ça m'a apporté de mieux me connaître. Mine de rien, d'être dans cette, enfin, moi, je vois certaines épreuves. Ça a été, pourtant, je suis quelqu'un de très nerveux, très stressé à la base, mais alors là, je pense que j'ai jamais vécu ça, quoi. Tu puises dans des ressources que tu connaissais pas, et ça m'a beaucoup appris là-dessus à s'organiser aussi et aller au point, enfin, tu vois, à l'essentiel, quoi. Je pense que ça, mine de rien, ça m'a beaucoup servi, et puis ouais, c'était des super rencontres, quoi.
Mais c'est dur le jugement des gens dans la rue, sur les réseaux sociaux, avec la diffusion ensuite, vraiment la partie externe.
Vu que c'était le confinement, on sortait pas beaucoup. Ou alors quand on sortait, c'était avec le masque. Donc j'ai été un peu reconnue, et franchement, c'était à chaque fois hyper sympa, quoi. Ouais. Après, c'est plus aujourd'hui que vraiment je le ressens. Ou si cet été, par exemple,
avec
à Nîmes.
Restaurant.
Ouais, ah oui, voilà. Oui. À Nîmes, mais genre, j'étais reconnue tous les jours. Et je trouvais ça dingue, parce qu'à Paris, pas du tout. Donc, j'étais là, ouais, c'est dingue. Et ouais, là, aujourd'hui, je le ressens vraiment, l'impact. Les gens sont hyper sympas. Ça se compte sur les doigts d'une main, les messages haineux.
On les oublie.
On les oublie. Ouais. Ça fait mal sur le coup, mais au final, ça reste une minorité et ça fait mal. Franchement, on n'a pas osé dire... Ou c'est plus, moi, tu vois, des trucs que parfois j'ai pu lire sur Internet. Il y avait un truc, c'était SoFoot.
Ah oui, par... Ça, c'est sûr que...
Alors, ils sont sûrement très, très bien comme journalistes, hein, mais genre, j'ai envie de dire, parler de foot, parlez pas de cuisine, les gars. Ouais. Enfin, genre...
Enfin, j'ai trouvé que... ils cherchent aussi à...
Ouais, et puis c'est un bien personnel. De... Ouais, enfin, ouais, ils font... Enfin, je trouve, après, voilà, il y avait des choses qui me faisaient rire, mais ouais, il y avait des choses un peu moins drôles, quoi. Ouais, ouais. Donc, je trouve qu'il y a quand même une limite. À un moment, oui, ça peut être très drôle, mais tu ne peux pas. Après, ça tombait parfois dans la haine, quoi. Mais bon, voilà. Il y a juste ça qui m'a fait un peu de mal, mais sinon, c'était. Enfin, je le vois aujourd'hui. Les gens sont adorables et franchement, et certains ils se déplacent de loin rien que pour me voir, pour venir goûter la cuisine, parce que c'est ça aussi ce qui est très frustrant pour les gens, c'est que souvent ils me le disent, ils font, on voit à la télé, on voit, mais on peut pas goûter quoi. Non. Donc là enfin on peut goûter et c'est trop bien quoi. On peut savoir ce que vous faites. Donc
et
ça, c'est cool.
Au lancement aussi ça a aidé au démarrage.
Ouais, je pense que après. J'ai pas du tout communiqué. Enfin, presque pas.
Pourquoi ?
Je suis pas une grande communicante. je suis un peu old school. Moi, les réseaux sociaux, ça m'effraie un petit peu. Et je pense aussi, c'est, tu vois, ce que je te disais, où j'ai pas eu, là, les opportunités et tout. Bah, c'est dû aussi au fait que moi je suis pas l'instagrammeuse, je suis pas une grande instagrammeuse.
T'aimes pas te mettre en photo sous toutes
non,
les coutures.
Pas du tout. Non, je suis pas du genre à prendre un selfie et mettre une phrase philosophique en dessous, non. non, je suis. Mais après voilà, chacun fait ce qu'il veut, hein. Je suis la première à scroller des heures, hein. Et encore maintenant j'ai mis une limite, hein. parce que voilà, en fait, j'ai pas trop communiqué, un tout petit peu. Et ça a bien, bien commencé, mais grâce à la clientèle de quartier, étonnamment. Mais même, il y a des gens qui venaient qui me disaient « Mais pourquoi vous dites pas que c'est vous ?» je fais « Bah oui, mais on verra. » En fait, j'avais envie aussi que les gens viennent...
Pour ta cuisine.
Pour la cuisine. Pas parce que c'est moi. Parce que c'est bon, en fait. Enfin, donc je suis super contente aujourd'hui d'avoir un peu une clientèle d'habitués qui s'est faite pas parce que j'ai fait Top Chef mais parce que ils aiment être ici, ils aiment ma cuisine et ça c'est un peu ma plus grande victoire quoi. Je fais pas 3000 posts Instagram mais le restaurant est plein. Donc au final, est-ce que on a vraiment besoin de ça? Je sais pas. Oui, faut vivre avec son temps. Je sais qu'il faut qu'on communique un peu plus, et enfin que je communique un peu plus, que ce soit avec le resto ou même avec mes. Mais j'ai pas envie de miser là-dessus. Je sais pas. Je me dis peut-être que quand le restaurant sera un peu moins plein, je commencerai peut-être un peu plus à communiquer. Mais voilà, je suis contente que ça fonctionne sans. Je pense au moins je suis droite dans mes bottes. C'est pas quelque chose qui me fait plaisir, enfin que j'aime faire. Et puis j'ai pas le temps.
Oui, en plus, d'autant plus.
Non, mais mine de rien, même que ce soit ma famille ou quoi, c'est du genre oh, tu bosses pas beaucoup. Bah ouais, mais en fait, je bosse 14 heures par jour. On est trois. Maintenant, on est deux. On est deux en cuisine. Enfin, genre, je fais 60 à 70 couverts par jour. Il y a un moment, faut choisir. Soit je fais des très belles photos, ce que je ne sais pas faire.
Soit tu te concentres sur les assiettes.
Sur la cuisine, quoi. Et pour l'instant, j'ai choisi mon camp. Et ça marche très bien comme ça. Donc je vais essayer un peu de jouer un peu plus le jeu, mais c'est pas ce qui me définit. Donc ça me va très bien.
Bon, on va passer à l'aller-retour. Ton plat préféré de tous les temps?
Mon plat préféré de tous les temps. C'est le plat de ma grand-mère. C'est tourne-dos à l'ail, tourne-dos saignant. à l'ail et purée de pommes de terre. Avec une bonne sauce au beurre. Et ça, c'est dingue, quoi. Là, t'as la viande bien tendre. T'as une bonne haleine à la fin, mais c'est, enfin, et puis tu sauces tout ton beurre, quoi. C'est trop kiffant.
Ton livre de recettes fétiche?
Le Mincent. Le livre de référence de cuisine. Mais mine de rien, c'est con. Et puis,
il est moche, mais il est génial.
Il est chum à mort. Mais ouais. Franchement, moi, je sais qu'il est dans mon vestiaire et.
Tu replonges.
Parfois, ouais.
Les basiques,
c'est hyper important d'avoir ces basiques, quoi. Soit l'escoffier et tout, souvent, ça m'arrive de le feuilleter. Je trouve ça hyper important de savoir un peu ces classiques pour après.
Les dépasser, mais.
Exactement, ouais, s'exprimer comme tu veux.
Le dernier ingrédient que tu as découvert?
Je l'ai découvert il y a quelques mois, mais le vadouvant.
C'est un espèce de
sorte de mélange d'épices huilées. Enfin, je trouve ça dingue. Ça a ce côté torréfié, un peu. Alors, comme dirait, je cite grand chef Antoine Villard, ce côté sauvage et animal est tellement. Et vraiment, j'ai découvert ça grâce à Antoine. Et je trouve ça fabuleux. Tu peux changer un plat, quoi. Là, en ce moment, je l'utilise justement avec les huîtres. Je dis pas ce qu'il y a, parce que c'est un peu long à expliquer, et puis voilà. Mais je trouve que c'est ce qui vient enrober l'huître et qui donne un goût de dingue qui est assez inexplicable, mais que depuis que j'ai découvert ça, je trouve ça fabuleux.
Le truc le plus trash que t'aies mangé?
Parce que j'ai mangé de la cervelle il n'y a pas si longtemps que ça, mais j'adore ça, donc il n'y a pas.
En voyage ou tu vois ou.
En voyage, si j'ai mangé des choses bizarres, mais vu que tu sais pas ce que c'est, je saurais pas te dire ce que c'était. Mais je pense que tu demandes pas.
T'as pas envie.
Tu sais, sur des petits marchés, il y a quelques années, j'ai été à Bali où j'allais sur des petits marchés, j'étais toute seule et tout, et tu manges des choses. C'est des petits cœurs de je sais pas quoi, des petites pâtes, t'es là, bon. Mais vu qu'il y a une super sauce et tout, c'est grillé, c'est très bon.
Ton dernier meilleur repas?
C'était quand au Barat. C'était, j'ai mangé la meilleure cervelle de ma vie, quoi, avec un petit beurre blanc citronné. C'est tout con, enfin oui et non, mais qu'est-ce que c'était bon, vraiment.
Le chef ou la chef à suivre?
Moi, j'aime beaucoup, j'ai travaillé avec elle à Nîmes et c'est Georgiana View. Et elle a une cuisine tellement inspirante. Enfin, courez la voir à Nîmes, quoi. C'est vraiment une cuisine d'auteur et avec toutes ses racines, elle vient du Bénin. Et vraiment, elle m'a beaucoup appris, on a beaucoup échangé, et elle a une cuisine très très riche. Et le chef à suivre, ma dernière grosse, mais ça remonte à très longtemps, et il est pas à suivre, il a pas besoin de ça, mais Alexandre Mazia, j'avais vraiment.
Ils sont amis, je crois, non?
Ouais, ils se connaissent. Ouais, parce qu'avant, elle était à Marseille. C'est ma dernière grosse grosse claque d'un bel étoilé, ça remonte, hein. Mais franchement, quelle claque, c'était dingue.
Ta musique pour cuisiner?
En ce moment, je suis très playlist années 2000.
C'est le retour. Le retour des années 2000, ouais.
Ouais, je sais pas pourquoi, j'ai envie d'être dans cette nostalgie. Il y a toujours des bons sons, et ça m'ambiance de ouf.
Un compte Insta que t'aimes suivre?
J'aime beaucoup The Social Food. J'avais acheté leur livre d'ailleurs. Je trouve qu'ils ont su créer une sorte d'image et une sorte de concept à eux seuls, où je trouve que c'est très fort ce qu'ils ont réussi à faire. C'est beau, tout donne envie, tout, tout est beau, ils vont prendre juste une vieille arête de poisson sur un marbre, bah tu te dis waouh, c'est quelle beauté. Non mais ils sont très très forts. Moi je trouve qu'ils sont très inspirants et la preuve, je trouve qu'ils sont beaucoup copiés mais jamais égalés. Mais j'aime beaucoup ce qu'ils font.
Ça représente quoi pour toi la cuisine aujourd'hui?
Bah la cuisine pour moi c'est ma vie. Ça fait très cliché de dire ça mais au final depuis que j'ai commencé la cuisine c'est mon métier. Comme tout le monde je mange hein, bien sûr à côté. Et du coup c'est un truc qui est déjà pour nous Français c'est overprésent la cuisine. C'est quelque chose je pense qu'on est un des peuples qui le parle le plus de bouffe. Et du coup, la cuisine, c'est omniprésent pour moi. C'est tout le temps là. Dès que j'ai du temps, je m'achète un beau livre de cuisine. Je vais au restaurant. D'être au restaurant, d'être là, de travailler. Enfin, c'est mine de rien, on a quand même un métier qui prend beaucoup d'heures, beaucoup de temps dans la vie. Après, c'est un choix. Hein. Moi, la première, hein, pendant le confinement, dès que je travaillais plus, c'était quelque chose qui m'a manqué parce que au final c'est que en cuisine où je me sens bien donc pour moi ouais c'est tout et à la fois j'essaye quand même de m'en détacher parce que je pense que c'est important de s'ouvrir à d'autres choses et que de ne pas juste vivre cuisine donc j'essaye de m'intéresser à d'autres choses quoi mais ça reste quand même ce qui représente ma vie en général.
Et qu'est-ce qui t'inspire justement de façon générale?
Ce qui m'inspire pour
dans
cuisiner
ta, ouais,
ou...
dans ta cuisine ce que tu as mangé, ce que tu disais.
Est-ce
qu'il y a
aussi
d'autres choses?
Après, c'est quand je vais au restaurant ou quand tu vois, tu te promènes, tu te dis, il y a ce légume, il y a ça. Instagram aussi, mine de rien, aujourd'hui, c'est quand même.
Une source d'inspi.
C'est une source d'inspi, quoi. Après, j'essaye de. Parce que ça devient vite un copier-coller après où tu vois que tout le monde fait la même chose un peu différemment, mais c'est la même chose.
C'est hyper dur, ça, je trouve, aujourd'hui, de se faire sa propre cuisine. Différente des autres, surtout que les produits sont plutôt équivalents.
On a tous les mêmes produits, mais bien sûr.
Et quand c'est la saison de l'ail des ours, t'as de l'ail des ours de Bardot, quoi.
Bien sûr, je vais pas y couper. Hein, ouais.
Et c'est cool, mais en même temps, de réussir à se faire sa propre...
Mais tu vois, c'est aussi pour ça que j'avais un peu... Il y a eu l'ouverture de Fripon, tout ça, je me suis dit, pas que je m'enlève des réseaux sociaux, mais... Je me suis un peu coupée de tout ça parce que je voulais pas faire des choses. Parce que parfois, tu fais des choses parce que inconsciemment, tu les as vues. Tu te dis, ça c'est pas mal. Et puis en fait, c'est une photo que t'as vue et t'es là, tu te dis, putain.
Ouais, même si c'est pas voulu.
C'est pas voulu, mais en fait, tu l'as intégré et du coup, tu reproduis. Et c'est aussi pour ça que ces derniers mois, je me suis un peu coupée de tout ça pour justement pas m'inspirer de choses que j'ai pu voir. Et voilà, comme tu dis, on a tous les mêmes ingrédients. À aucun moment je dirais que je réinvente la cuisine ou quoi. Il y a un moment, on cuisinera. Non, mais ça me fait toujours rire quand t'entends il a copié truc parce qu'il a fait comme ça. C'est bon, t'as rien inventé.
Oui,
t'as mis deux sauces, il en a mis trois. Ça ressemble un petit peu à ton dressage. Calme-toi, quoi. Il y a des chefs encore qui arrivent à créer, à pousser des cuissons ou des choses, mais parce qu'ils ont des labos, parce qu'ils ont des brigades de 50 gars pour faire ça. Mais moi, à ma petite échelle, à aucun moment je vais révolutionner la cuisine, quoi.
Cuisine.
Non, mais à deux en cuisine, tu vois, il y a un moment, on n'est pas.
Non, mais en même temps, t'as quand même réussi à créer une identité culinaire, en tout cas, qui te ressemble.
Après, je pense aussi être reconnaissable, on va dire, dans mes assiettes. C'est marrant, la dernière fois,
important.
Là-dessus, je suis contente.
Je trouve que effectivement on ressent quelque chose.
Ouais. Je suis super contente. Moi, souvent j'entends ça. Oui, t'es hyper identifiable. Je suis contente de me dire. Je me détache un petit peu de pas des autres. En tout cas, je me détache. J'arrive à être identifiable. Et justement, la dernière fois, on me disait, ce qui est bien, c'est que tu fais une cuisine qui n'est pas à la mode. Et j'étais contente qu'on me dise ça. Parce que...
Elle sera moins démodée.
Parce qu'elle est peut-être intemporelle. On verra. Non, mais c'était un beau... Enfin, mine de rien, justement, la personne m'a dit, non, mais le prends pas mal. Je fais, mais non, je le prends très, très bien. Elle fait, c'est vraiment un compliment. C'est que tu ne fais pas quelque chose qu'on attend de voir et qui se voit partout.
Dans 6 mois. Chez Fripon, il y a des nappes blanches sur les tables. C'est pas un simple bistrot, mais un restaurant où vous avez envie d'inciter les clients à prendre du bon temps, notamment.
Ouais, le côté nappé, mine de rien, ça recrée ce moment où t'es attablé à l'ancienne, tu vois. Où,
un restaurant.
Ouais, t'es au restaurant. T'es pas. Ouais, ça marque vraiment le moment un peu exceptionnel. Ouais, t'es nappé. Le moment dingue. Les gens adorent quand on fait le ramasse-miettes. Quand les filles elles font le ramasse-miettes, genre, c'est les gens sont figés et genre c'est le petit moment figé dans le temps où t'as un peu service à l'ancienne où voilà c'est ce petit moment spécial où c'est nappé, t'as le ramasse-miettes.
Mais en même temps c'est cool, j'aime bien pousser les miettes quand il y a pas de ramasse-miettes.
Je pense aussi ça marque le lieu, ça différencie.
Ça pose les choses. Enfin, ça pose
ouais,
un peu.
Mais totalement, c'est ce qu'on cherchait et aussi ça marque les gens.
Ouais.
Tu vois, le fait qu'on soit nappé, parce que ça se fait plus beaucoup. Bon, je pense en termes d'économie et en termes de logistique, mine de rien, c'est une logistique les nappes.
Ouais.
Mais voilà, ça nous démarque un petit peu parce que ça se fait plus trop. Donc ça, je suis contente.
Tu sais, il y a aussi un. Quelque chose de... Je suis venue déjeuner et avec des personnes d'âge différent. Et ça plaît aussi à tout le monde. Tu vois, il y a aussi quelque chose d'intemporel, peut-être d'intemporel, d'intergénérationnel
ouais.
plutôt, qui fait que ça peut plaire aussi bien à des jeunes que des personnes...
Mais ouais, moi, je vois, on a vraiment toutes les tranches d'âge. Et ça fait plaisir. Enfin, parce que bah ouais, j'ai envie de toucher des 7 à 77 ans quand même. Enfin, non, et plus vieux encore. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de limite. Mais ça me fait vraiment plaisir quand j'ai le petit enfant de 8-9 ans qui me dit j'ai tout mangé, c'était trop bon. Et t'as les petits grands-parents qui me disent qui sont voisins et qui me disent du coup maintenant vu qu'on vient souvent, on fait mieux à la maison. La dernière fois, j'ai des clients qui m'ont dit ça, mais j'ai trouvé ça trop mignon, tu vois. Il y a de tout. Enfin, et ça, je pense que c'est hyper important dans un restaurant de. Enfin, tout ça, en tout cas, c'est ce que je voulais, tu vois, de toucher tout le monde. Que ça soit même le midi, tu vois, ce que je te disais, je fais des trucs un peu plus classiques. La dernière fois, une grand-mère qui m'a dit la langue de bœuf. En fait, j'avais toujours tendance à la faire, mais là, vous m'avez appris quelque chose et c'est top, tu vois. Je touche tout le monde et je pense que c'est ça la cuisine aussi, c'est de pas juste viser une clientèle et c'est ça qui me touche. Donc, je suis vraiment très contente.
Quand est-ce que tu t'es senti chef pour la première fois?
Oui et non, je pense que je me sens chef que réellement depuis que quelques mois, pas depuis l'ouverture, tu vois. Parce que j'ai mis du temps à me sentir légitime. À me dire, oui, ça y est, maintenant c'est ta cuisine. C'est ton nom. Je sais que ça me terrifiait et ça me terrifie. Enfin, ça me terrifie, non, c'est des grands mots. Mais ça fait toujours peur. Enfin, les premiers articles où j'ai vu mon nom marqué, je les lisais pas. J'avais pas envie. Ou tu sais, je lisais en diagonale. Oui, ça va, c'est pas trop méchant. Mais voilà, ça fait que peu de temps finalement que là, je commence à vraiment à me dire oui, en fait.
C'est moi la chef.
C'est moi la chef. Non, mais après, à aucun moment, je les oblige à m'appeler chef ou tu vois, genre. Alors, pendant les services, c'est chef, mais sinon, voilà. Mais ça fait que depuis quelques temps où vraiment, je me dis, ouais, c'est bon, je suis en accord avec moi-même. Au début, j'étais stressée forcément que les gens viennent, tout simplement. Même que ce soit les journalistes, que ce soit mes copains de la restauration. Je pense que c'est le public qui fait le plus peur, quoi. Tes amis cuisiniers, quoi. Et au final, je me suis dit, bah, ouais, mais je suis contente de ce que je fais. C'est comme ça que je veux le faire. Donc,
ça te
même
plaît.
Si, voilà, ça me plaît. Si ça leur plaît pas, bah, j'ai envie de dire tant pis.
Mais déjà, si ça te plaît.
Non, mais voilà, c'est si ça me plaît. Et en fait, enfin, à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, bah, ça me plaît. C'est comme ça que je veux. Je vais pas changer parce que machin me dit, ah, tu devrais plus faire comme ça. Oui, après, j'écoute, bien sûr. Il y a toujours des remarques constructives ou pas. Mais il y en a quand même. Non, mais il y en a beaucoup quand même, tu vois. Moi, j'ai pas mal d'amis où je me dis, mais heureusement qu'ils m'ont dit de faire ci ou de faire ça, parce que ça m'a beaucoup, beaucoup aidé, voilà, à améliorer les choses. Et je pense que je m'améliore de jour en jour et c'est normal, quoi. Parce que je me sens de plus en plus à l'aise et légitime et comme tu me disais, je me sens de plus en plus chef. Donc je suis contente.
Et tu te sens plus chef ou cuisinière?
J'aime pas ce mot cuisinière.
C'est un peu gazinière.
Ah ouais, ça fait cuisinière, cantinière, gazinière. C'est il y a le nière, quoi, tu vois.
Chef ou cuisinier. Enfin, je vais pas mettre au masculin en même temps, mais tu vois.
Je dirais ouais, plus chef aujourd'hui. Mais après. C'est marrant parce que oui, je me sens plus chef et à la fois je cuisine énormément. Enfin, tu vois, je suis pas la chef qui déambule dans la salle et qui est juste derrière le passe à mettre 3 pouces.
Tu es le bord de l'assiette.
Exactement. parce que on est une toute petite brigade alors on verra dans quelques années. Et j'aime ça. Oui, voilà. Tu vois, moi j'aime cuisiner. Je me vois pas. Moi, je vois dès que les gens viennent me parler ou que je vais en salle parler aux gens, je commence à m'y faire, mais je sens que c'est quand même pas ma place, quoi. Ouais, j'aime bien. J'aime bien être en cuisine et c'est là où je me sens à l'aise et cuisiner tout simplement. Enfin, c'est ce que je sais faire. Je pense que le rôle, même si t'es chef, bah ouais, faut être dans ta. Enfin, faut. Pour moi, je parle.
Tu ressens le besoin.
Oui, je ressens le besoin. Et puis, de toute façon, j'ai pas l'équipe, donc je peux pas me permettre de me dire ils se démerdent. Non, c'est là, faut que je sois là, quoi. Mais c'est normal. Ça me paraît totalement normal. Mais tu vois, c'est marrant parce que parfois, il y a des clients qui demandent à Aurore, qui est en salle, c'est vous la chef?
Je suis au service.
Et là, elle lui a dit, elle fait, en fait, je serais vraiment très, très forte. J'arriverai à vous servir le vin et faire ça et ça. Et après, je vais cuire mon riz de veau. Et en fait, je pense aussi, les gens, ils se sont un peu mis dans la tête qu'aujourd'hui, les chefs, ils sont plus forcément en cuisine, tu vois. Ils se baladent et tout. Et on est deux... oui, je suis en cuisine, quoi. Donc, je pense aussi dans l'imaginaire, aujourd'hui, ils s'imaginent que le chef, c'est pas forcément en cuisine. Mais bon.
Et ton rêve d'ouvrir ton propre restaurant,
il sera comment? En fait, c'est pas forcément un restaurant que j'aimerais avoir. Moi, c'est mon rêve, mais on verra comment c'est. Mais j'adorerais avoir une table d'hôte, chambre d'hôte au Pays Basque. Ça, c'est mon grand rêve. Depuis que j'ai fait mon apprentissage dans le sud-ouest.
À l'auberge basse,
ça m'a. Enfin voilà, j'y retourne très très souvent. C'est une région où je me sentais bien, où je trouve qu'en termes de produits, c'est dingue, quoi. C'est dingue. T'as la montagne, t'as l'océan, t'as les grandes plaines. Enfin, je trouve que t'as un terroir, t'as. Une géographie, enfin tout est là, tout est réuni et bon après ça commence à devenir un peu saturé mine de rien en parisien, donc il va falloir que je bouge vite mes fesses, mais ça c'est en fait j'adorerais bâtir un endroit où recevoir les gens et en faire une table de dingue, quoi. Ça c'est un peu mon rêve, tu vois, moins qu'un restaurant. Mais après, à la fois, aujourd'hui, je suis tellement bien fripon que je suis un peu, pas de changer mon fusil d'épaule, mais limite, quoi, de me dire, ouvrir un restaurant à Paris, quand même, c'est... Il y a quand même... Tout se passe à Paris. Enfin, pas tout, mais... Il y a quand même beaucoup de... Enfin, la table...
C'est encore très centralisé.
C'est très centralisé. Ouais.
Donc, un peu Marseille aussi.
Un peu Marseille, ouais.
Et un peu Biarritz quand même.
Ouais, un peu Biarritz, mais mine de rien, Biarritz bon, en saison, tu vois.
Oui.
Donc je sais pas. Là en ce moment, puis je suis tellement bien dans à Fripon que pour l'instant, je me donne le temps de déjà de faire ma place, faire mon nom. Je pense que c'est important aussi pour la suite de d'être au moins quand j'ouvrirai mon lieu, je sortirai pas de nulle part, je pense que ça sera plus facile d'être suivi et d'être moi-même, enfin parce que les gens me connaîtront. Donc là, je profite de ce que Romain me donne avec Fripon, quoi. C'est-à-dire cette carte blanche formidable. J'ai une équipe en salle, Aurore et Jeanne, qui sont formidables. Greg en cuisine, pareil. Enfin, pour l'instant, tout se passe bien. Donc j'essaye de profiter un max. Bien sûr, je pense à la suite. Je pense que les choses, malgré tout, vont vite. Et ça arrivera vite le moment où je vais ouvrir mon affaire, quoi, mais je me donne le temps.
Bon, ça y est, on arrive à la fin. Et j'ai l'habitude de demander une recette, la recette du chef, la recette simple du chef.
Ma recette simple. Moi, j'adore me faire une bonne salade de concombre. balsamique blanc, avocat, avec un œuf mollet.
Mollet. Concombre coupé comment ?
Concombre coupé très très finement avec un peu de vinaigre de riz, huile de sésame, balsamique blanc. Je mets un petit peu d'avocat et aussi ce que j'aime beaucoup c'est faire patates douces rôties au four et après du coup je mets en cube. Comme ça rajoute un peu le côté sucré et fondant à la salade et un œuf mollet et là.
On est bien.
Et là, on est bien. Tu peux rajouter aussi un peu de graines de courge pour le croquant, tu vois. Et ça, c'est ma petite salade du dimanche soir.
Merci, Pauline.
Merci à toi, Julie.
Vous venez d'écouter Pauline Séné, épisode 11 de la saison 5. Pour goûter ce gala dans la poêle, rendez-vous chez Fripon, 108 rue de Ménilmontant, à Paris 20e. Vous pouvez également la retrouver sur Instagram. Vous pouvez retrouver les précédents épisodes sur votre appli préférée ou sur le site apoil-lepodcast.com et suivre Apoil Podcast sur Instagram. Cet épisode a été monté par Garance Munoz, musique par Santiago Walsh. À bientôt pour un nouvel épisode d'Apoil.